Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, débat.
Et le 11h midi, les débats, les commentaires sur l'actualité avec vous, avec les débatteurs du jour. Frédéric Dabi, bonjour, directeur général adjoint de l'IFOP,
bonjour
à vous. Dominique de Montvallon, bonjour, journaliste politique, éditorialiste. Mathieu Alterman, bonjour. Journaliste, vous avez publié Femme fatale aux éditions Quai des Brunes, ouais. Et vous êtes quoi?
Et
vous
le prochain arrive en mois de mars.
Ah bon, très bien, on aura l'occasion d'en reparler. Et Régis de Castelnau, bonjour cher Régis.
Bonjour.
Vous êtes avec nous depuis les Bouches-du-Rhône, c'est cela?
Oui, les Alpilles.
Les Alpilles,
c'est pas chic.
Très chic. Avocat, on vous retrouve sur votre blog Vue du droit et puis on peut vous lire. Vous êtes membre de la rédaction de Front Populaire et on peut toujours vous lire dans Causeur, non?
Ça arrive. Mais là, j'ai changé de club.
Vous avez changé de club. Donc là, vous êtes Front Populaire, donc qui est mené par le philosophe Michel Onfray. Voilà. Écoutez, vos coups de cœur, vos coups de gueule. Dans un instant, on va parler de cette amende pour les fumeurs de cannabis annoncée par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui entre en vigueur aujourd'hui. Il veut faire la guerre aux trafiquants. Est-ce que c'est la meilleure manière de faire la guerre aux trafiquants? On va parler de cette étonnante déclaration de Christian Estrosi, c'est-à-dire ce matin dans le Figaro, la droite doit s'allier à Emmanuel Macron. On va commenter cette déclaration de Christian Estrosi et puis la rentrée scolaire, des gestes barrières très difficiles à respecter, pas seulement dans les écoles, d'ailleurs dans les entreprises, on l'a un petit peu évoqué hier. Petit tour de table sur ce qui a retenu votre attention. Mathieu Alterman.
Moi, c'est à la fois un coup de cœur et un coup de gueule. C'est la couverture de Charlie Hebdo qui paraît demain, qui va faire beaucoup de bruit. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est.
Non, mais... je ne l'ai pas encore vu.
Je vais vous le dire. C'est le retour des caricatures de Mahomet, avec en gros écrit tout ça pour ça, puisqu'on fête, le procès.
Commémore.
Arrive cette semaine.
C'est le procès qui commence
et
demain.
Et le résultat que tout le monde dit, notamment Richard Malkin, l'avocat de Charlie Hebdo.
Qui oserait publier aujourd'hui les caricatures?
Plus personne. Aujourd'hui, la liberté d'expression a reculé. Aujourd'hui, malheureusement, les terroristes ont gagné. Voilà, c'est terrible.
Mais alors quoi, Charlie Hebdo va publier?
Oui.
Va republier les caricatures de Mahomet.
Une caricature de Mahomet.
Une caricature.
Oui, en couverture.
Quel est le sens, quel est le sens de coup de gueule, je comprends pas.
Mon coup de gueule, c'est que la liberté d'expression et les terroristes ont gagné. Mon coup de cœur, c'est Charlie Hebdo qui fait preuve d'un courage et qui reste absolument parfait sur le discours depuis ce qui s'est passé, malgré toute une gauche à plat ventre qui ne le soutient plus du tout aujourd'hui.
Avec du courage, non? Dominique, vous semblez...
Non, pas du tout, j'étais curieux, mais je partage totalement ce coup de cœur s'il est permis de partager.
Oui.
Je vais peut-être enchaîner sur mon coup de cœur parce qu'on ne s'était pas concerté avec Mathieu, mais on est en droite ligne puisque c'était un coup de cœur pour un anniversaire. Il y a 60 ans, naissait le journal Harakiri. Ce journal bête et méchant, fondé par le professeur Choron et Cavana, un journal anti-tout, anti-clérical, anti-militariste, irrévérencieux, qui a mis en avant des caricatures, des choses extrêmement cruelles, qui a disparu en 1970, après sa fameuse une suite à la mort du général de Gaulle, un bal tragique à Colombey, un mort, et qui, en, 72, a ressuscité sous le titre Charlie. Charlie, c'est Charles de Gaulle. Charlie Hebdo, donc on est en cohérence. Et c'est vrai que l'esprit Charlie, c'était d'abord l'esprit Harakiri. Cabu a commencé chez Harakiri. Rezer, Delfeuille de Thon. Toute une série de dessinateurs morts et certains, comme Wolinski, comme Cabu, comme Charb, assassinés. Et dans le contexte du procès qui s'ouvre dans les prochains jours.
Je voudrais juste rajouter quelque chose. Il faut quand même rappeler que Harakiri, comme Charlie Hebdo, ce sont des gens qui font rire. C'est fait pour faire rire.
Exactement.
On ne le rappelle pas assez, ce sont quand même des journaux drôles.
C'est pour ça, alors je rebondis encore. Quand on a essayé de mettre en avant ce qu'a fait Valeurs Actuelles à Daniel Obono et en disant « Ah, mais Charlie Hebdo », et c'est des gens de gauche qui l'ont dit malheureusement, avait dessiné Nadine Morano sous les traits d'une trisomique, bien sûr, c'est des journaux qui n'ont rien à voir. Il y a un journal d'opinion, il y a un journal drôle, caricaturiste, et qui est dans la caricature intégrale de toutes les religions, tous les partis politiques.
Absolument.
Valérie,
justement, Régis. Alors attendez, oui, Régis, puis après Dominique, oui.
Je voulais faire une remarque à Frédéric. Il faut bien que je démontre que je ne suis pas encore Alzheimer. Harakiri est d'abord un mensuel créé, effectivement, très tôt sur le modèle du magazine américain Mad. Ça devient, il reste mensuel, mais il y a un hebdomadaire qui sort qui s'appelle effectivement Harakiri Hebdo. Et au moment du fameux 5-7, les 170 morts dans cette discothèque et de la mort de Gaulle qui sont concomitantes, ils sortent une fabuleuse, hein, balle tragique à Colombey, un mort. Et ils sont à ce moment-là interdits.
Oui.
Hein, et la semaine d'après, ils sortent très courageusement, ils sortent Charlie Hebdo.
Oui. Hein,
c'est-à-dire que Charlie était aussi un de leurs mensuels. C'est-à-dire que l'acte qu'ils sont en train d'accomplir là, ils l'ont fait à cette époque. Hein, c'est pas deux ans après. Non, c'est tout de suite.
Alors, Dominique, pardon.
Oui, sans concertation aussi, ça me paraît complémentaire. Moi, je voudrais, la formule est peut-être mauvaise, un coup de cœur, en tout cas.
Rendre hommage
au procureur François Molins, qui est l'ancien procureur de la République de Paris, aujourd'hui procureur général près la Cour de cassation. Je dirais que dans un quinquennat Hollande médiocre et même à mes yeux, mais bon, raté, se distingue une figure, hein, qui est celle du procureur Molins, qui a parlé comme un serviteur de la République avec un grand R, avec précision, avec mesure, avec force, avec dignité. Et tous les Français qui ont vécu cette période-là, ont déjà oublié bien des protagonistes, mais n'oublie pas le procureur Molins, et d'autant plus que le procès des comparses, si on peut dire, de la tuerie de
Charlie Hebdo
et puis de l'hypercacher, et aussi on peut peut-être ajouter la policière qui a été tuée de sang-froid
à
Montrouge, va s'ouvrir, donc... coup de chapeau, voilà. Notre formule, je le dis volontiers.
Enfin, il aurait fait un bon ministre de la Justice. Il avait été évoqué.
C'est évident.
Il avait été évoqué comme ministre de la Justice.
Une certaine émotion en parlant de lui, parce que vraiment, dans une circonstance exceptionnelle, il y a des gens qui sont à la hauteur, d'autres qui ne le sont pas. Lui, il a été plus qu'à la hauteur.
Absolument. Alors, Régis, c'est un coup de gueule.
Oui, non, ou coup de gueule. Enfin, non, c'est plutôt un coup de gueule rigolard, parce que je constate, et ça rejoint le propos de tout le monde ce matin sur la liberté d'expression. Je reviens quelques instants sur l'affaire Béa Obono, en commençant bien sûr par prendre
valeurs actuelles.
De dire que j'ai trouvé que les dessins et même le texte, c'était assez ignoble. J'aime pas qu'on instrumentalise ni la Shoah ni pour faire ce genre de règlement de compte politique. Tout ça est nul. Cela étant, j'ai regardé le texte en détail,
Le texte n'est pas ignoble.
Non, mais l'ensemble est très déplaisant.
Est-ce que les textes précédents où on guillotine François Fillon, où on tue Éric Zemmour à Waterloo, est-ce que les autres textes étaient moins choquants?
Je suis entièrement d'accord. D'une uchronie, Valérie, je prends cette précaution initiale pour dire que j'ai détesté ce truc, c'est tout. Bon, mais... comme j'aurais détesté Meyer Habib en gilet rayé, qui passe son temps à instrumentaliser la Shoah, entre les barbelés d'Auschwitz, tout ça, je n'aime pas ça. Bon, mais sur le fond, vous avez entièrement raison, Valérie, il n'y a pas de propos racistes. Le texte de VA n'encourt pas la loi française. Et c'est ce que très habilement, hein, un garde des Sceaux, qui n'est pas Molins, mais qui est Éric Dupond-Moretti, a fait un tweet excellent en disant « On peut détester un roman nauséabond dans les limites de la loi », donc il donne le message, il donne le là tout de suite en disant « Il n'y a pas d'infraction à la loi française ». Moyennant quoi, le lendemain, le procureur de Paris, sous les ordres de Monsieur Rémy Yates, ouvre immédiatement une enquête préliminaire, fait preuve de zèle et montre bien une chose, je m'en tiens là, montre une chose, c'est que comme Nicolas Hulot à l'écologie, Éric Dupond-Moretti n'aura aucun pouvoir à son ministère. Alors, la décision d'ouvrir l'enquête préliminaire n'est pas une initiative du parquet. Bien sûr, c'est une initiative qui a été prise ailleurs. Donc, pauvre Dupond-Moretti qui avait fait la même analyse que moi, et deuxièmement, qui l'avait dit tout de suite, Hein, eh ben non, la liberté d'expression est menacée par l'instrumentalisation de la justice aussi, hein, parce que on appelle aussi djihad judiciaire, et je pense que c'est très préoccupant.
Alors moi, je voulais, puisqu'on parle justice et droit, je voulais vous faire écouter. Alors certains diront qu'on leur fait trop de publicité. Le président de la LDNA, oh donc la Ligue de défense des Noirs africains, qui hier est allé devant Valeurs Actuelles et écoutez ce qu'il disait à propos des Juifs, justement, et à propos des journalistes de Valeurs Actuelles.
Parce que face à la communauté juive, vous claquez des fesses. Voilà. Vous êtes comme ça, comme des enfants.
Et ça, c'est vrai, ça.
Ouais,
ça
c'est même vous, les policiers.
Ça, c'est vrai, ça.
Parce que votre président, voilà, on le voit quand il va au dîner du CRIF et qu'on lève sa main comme une marionnette.
Voilà. Bravo,
voilà. Merci.
Et le deuxième extrait concerne donc des menaces qui pourraient s'assimiler bien à des menaces de mort. Écoutez.
Bah, contre les Noirs, alors vos bras, nous allons les arracher. Et vous n'aurez plus de bras pour écrire quoi que ce soit. Nous allons vous arracher vos bras. Et si vous nous marchez dessus avec vos pieds, on vous arrachera les pieds. C'est comme ça. Dorénavant, ça sera dans l'autodéfense.
Moi, je voudrais juste réagir.
Alors, oui, bon, je crois qu'on en a assez entendu.
Oui, on a assez entendu, mais je ne comprends pas pourquoi toujours les Juifs. Enfin, il y a un moment, c'est tout le temps. Pourquoi de... Alors, vous prenez le terme.
On ne voit pas les coiffeurs.
Non, mais c'est, voilà, c'est ça la blague.
Sans partout.
Mais c'est-à-dire, c'est tout le temps. Juifs, on en parle. Cette semaine, en 6 jours, ouais, on a eu. Alors, la mauvaise blague de Nicolas Bedos, dont j'imagine on a parlé partout sur les Juifs. On a eu quelques jours après France Culture qui publie un tweet en disant regardez, il y a un cycliste israélien, ils utilisent ça pour normaliser leur relation. Enfin, encore voilà. Et hier dans Le Monde, je vous lis ce qu'il y a dans Le Monde hier, parce que c'est surréaliste quand même. Je veux absolument le lire. J'en ai pour deux secondes. À propos du procès, de ce qui s'est passé et de Daesh, etc. On lit. Depuis les sikhs et les zélotes juifs, considérés comme les premiers terroristes de l'histoire, jusqu'à Daesh et Al-Qaïda. Mais dans Le Monde hier, quand est-ce qu'on va un peu lâcher la grappe des juifs? Enfin, voilà, c'est pas possible.
Non, Dominique de Montvalon. Attendez, Dominique.
Je ne peux que partager ce point de vue. Mais je voudrais quand même dire, parce que c'était ça la première réaction que vous attendiez de nous, me semble-t-il, que les propos qui ont été tenus par l'individu dont je préfère oublier le nom, sont absolument obscènes.
Bien sûr, et Mme Obono n'a pas mal à sa République quand elle entend des choses comme celle-là.
Non, mais oui. Et ça en dit long, parce que si on met les choses dans une perspective historique, je parle pas de 200 ans en arrière, mais c'est l'évolution qui se produit depuis quelques mois, depuis quelques années, etc. On en est là. On en est, quitte de ma part à qualifier d'obscène les propos en question, et beaucoup d'autres les jugent extrêmement sévèrement, voire plus encore que je ne l'ai fait. Il n'en reste pas moins qu'on est amené à commenter et à tenir pour des personnages de la sphère publique respectable et légitime, je dirais, un individu comme celui-là. C'est extrêmement inquiétant. Et si la, pardon de dire ça avec un peu d'emphase, mais je le dis en réalité avec gravité, si les Républicains, pas au sens du parti, mais si les Républicains ne se reprennent pas, où en serons-nous dans 2 ans ou 3 ans? Enfin, je ne parle pas de la présidentielle, je vais au-delà. Où en serons-nous? C'est obscène, ce qu'il a dit. Obscène, et d'ailleurs, c'est répétitif.
Mais
dans
la justice ne va pas se saisir de son cas. Alors, on va peut-être en redire un mot dans un instant. On marque une toute petite pause. Restez avec nous, 0826-300-300. Vous avez la parole également sur Sud Radio. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Avec vous jusqu'à midi, nous commentons l'actualité. Oui, j'ai un petit peu de mal à me recaler sur les jingles, mais ça va venir. Faut reprendre. C'est comme le vélo, on perd pas l'habitude. Moi, petit coup de gueule, gros coup de gueule, ras-le-bol des véganes extrémistes qui cette nuit sont allés taguer plusieurs commerces, dont des boucheries et une fromagerie, avec des inscriptions lait égale viol, éleveur égale violeur, pas ta mère, pas ton lait. Donc demain je vais recevoir.
Pas ta mère, pas ton. Qu'est-ce que
Parce que, en gros, la vache, c'est pas ta mère, donc elle doit pas te donner son lait. Voilà.
Bah écoutez, donc, on en est là. Il n'y a pas de mots.
Il faut téter sa mère, ça, c'est compatible, mais sinon, le reste,
c'est pas ta mère, tu bois pas le lait, tu n'es pas celui de ta mère.
C'est quelqu'un qui déteste le fromage qui vous le dit.
Mais demain, je vais recevoir Georges Fenech qui parle des nouveaux gourous, des sectes, et il assimile, lui, les véganes à une forme de.
Pas tous les véganes, pas tous les véganes.
Pas tous, mais les véganes, ceux-là, en l'occurrence, pour lui, ne sont pas loin de la secte dans la manière de.
Des comportements sectaires. mon point de vue, il a parfaitement raison.
Oui, oui, bah, ce sera demain à 10h30. Oui. Et puis, oui, Régis, vous vouliez dire quelque chose ?
Oh, juste que, à la base, il y a un obscurantisme, c'est-à-dire théoriser, qu'on soit végétarien, je comprends, mais théoriser en disant que c'est bon pour l'homme, ce n'est pas vrai. L'homme, il est omnivore, hein, et toute son évolution a été marquée par sa capacité justement à assimiler des protéines. Bon, animal d'ailleurs. Hein. Ouais. Donc, non, ce que je voudrais dire, c'est que c'est une attaque contre la civilisation. Et là, Frédéric, désolé, hein, je comprends qu'on n'aime pas le fromage parce qu'on a gardé la...
C'était de l'humour, Régis, hein, mais je crois que...
Ah bon,
c'est peut-être la distance qui a voulu l'humour, mon cher
attendez.
Régis.
Non, parce que ça existe, si vous voulez. Non,
mais je partage complètement ce que vous dites.
On métabolise, mais c'est un marqueur de civilisation. Le fromage est une des meilleures nourritures du monde. C'est vraiment, et c'est pour ça que la France est un très grand pays.
Voilà. Hein, combien de fromage?
Demandez au général
de Gaulle. Voilà. Ah bon, c'était un coup de gueule parce que ces commerçants ne méritent pas cela et que ce sont des manières de faire.
Parce que c'est obscène, tout simplement, encore, ces attaques.
Un mot sur la mairie de Paris qui a souhaité une bonne rentrée à tout.te.s, lesjeunesparisiens.ne.s, donc c'est de l'écriture inclusive, en espérant que vous avez bien révisé ER, oui, vos accents pendant les vacances. Alors, la mairie s'est rattrapée en disant...
C'était une blague,
dites donc, d'écrire avec des fautes d'orthographe, donc là oui, aussi...
Ouais, j'avais pas remarqué jusqu'ici que la mairie de Paris, qui est une très grande mairie,
devant
laquelle il faut s'incliner, son action spectaculairement reconnue par les Parisiens qui ne se sont pas abstenus aux dernières législatives. J'avais pas remarqué qu'elle était traversée par des flèches d'humour qui semblent brusquement surgir. Mais c'est peut-être nouveau, et c'est prometteur. Si ça se confirme, c'est prometteur.
De l'humour avec des fautes d'orthographe, c'est lamentable.
Mais ils ont surtout un problème de cible, parce que le participe passé, ça s'apprend en CM1, CM2.
CE1.
Et on a rarement un compte Twitter à cet âge-là. Donc c'est vraiment complètement idiot. Quoi.
C'est absolument idiot. Allez, on va passer. Alors ce matin, c'était pas prévu dans nos thèmes, mais ce matin quand même, le ministre, le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, qui était chez nos confrères d'Europe 1, s'est démarqué de son confrère ministre de l'Intérieur à propos du mot ensauvagement. Alors c'est un premier couac au sein de ce gouvernement. Écoutez.
Chacun utilise les mots qu'il veut utiliser.
Vous ne partagez pas le même diagnostic sur la réalité de notre pays que le ministre de l'Intérieur.
C'est le ministre de l'Intérieur. L'ensauvagement, c'est un mot qui développe, me semble-t-il, madame, le sentiment d'insécurité. Et je vais vous dire quelque chose
Le sentiment,
pire que l'insécurité, il y a le sentiment d'insécurité. Par quoi est-il nourri, le sentiment d'insécurité ? D'abord, par les difficultés économiques que traverse notre pays. Les gens ont peur, bien sûr. Par le Covid, ça fait peur aussi, ça fout la trouille.
Voilà.
Non, alors c'est vrai que c'est assez classique qu'il y ait des bisbilles sémantiques entre un garde des Sceaux et un ministre de l'Intérieur. Là, c'est particulièrement frappant. Moi, je vais te dire ce que je vois dans les enquêtes d'opinion. On a publié hier, Valérie, l'enquête IFOP fiduciale pour Sud Radio et CNews, où le sentiment que la lutte contre la délinquance doit être une priorité a gagné 26 points en 5 mois. Il revient à un niveau qu'il n'avait pas atteint depuis mars 2002, une date qui n'est pas anodine quelques semaines avant l'accession de Jean-Marie Le Pen au second tour. Ce qui me frappe, c'est deux choses également. D'une part, ce thème est de moins en moins clivé gauche-droite. C'est de moins en moins un thème de droite qu'un thème général. Et puis, le mot « ensauvagement », revenons au mot, est de plus en plus cité spontanément par les Français dans nos enquêtes. Et le terme « incivilité » utilisé par le président ou la banalisation de la violence ne font pas sens de la réalité vécue par les Français.
Alors, on y revient dans un instant. Petite pause, voilà. Et on se retrouve tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, et nous parlions donc de cette déclaration d'Éric Dupond-Moretti qui se distingue du ministre de l'Intérieur. Le mot ensauvagement provoque le sentiment d'insécurité. Vous nous disiez le contraire, Frédéric David, dans votre sondage. Les Français, pour eux, la priorité aujourd'hui derrière la santé, c'est justement la sécurité.
Alors,
Dominique.
Alors, deux choses. Je pense que trois choses. Le garde des Sceaux était bien inspiré de ne pas se lancer dans querelle sémantique. Sémantico-politique qui nuit à l'ensemble du gouvernement, donc à lui au passage. Deuxièmement, j'entends ce qu'il dit autrement que vous ne l'avez présenté, mais sans contester votre présentation. Non, je... C'est-à-dire que, en fait, il a choisi de se ranger du côté de Macron. N'oublions pas que Macron, plus élégamment, avait désavoué le ministre, de l'Intérieur. Sur le fond, la seule réalité, c'est que quoi que l'on pense des macronistes et de l'exécutif et du président, c'est qu'ils seraient bien inspirés, tous autant qu'ils sont, quel que soit le mot qu'ils choisissent personnellement d'utiliser, de prendre en compte cette réalité de la violence, de l'insécurité. Et alors, je me permets de conclure en relevant une phrase hallucinante, hallucinante. Très surprenante, on va faire un peu dans l'euphémisme, très surprenante de Dupond-Moretti, c'est celle-là qui m'a frappé. Il a dit, je ne me trompe pas, que le sentiment d'insécurité était pire que l'insécurité. Oui. Mais attendez, je ne comprends pas.
C'est le lien avec le mot ensauvagement. Lui dit le mot ensauvagement accentue ce sentiment d'insécurité. Voilà. Donc l'insécurité ne serait qu'un sentiment. Les sondages, c'est un sentiment. Oui. C'est ce que vous avez.
C'est une perception.
Régis de Castelnau.
Ces positions que je connais bien. Dans les milieux parisiens, sur le sentiment d'insécurité, il n'y a pas d'insécurité, il n'y a qu'un sentiment d'insécurité. J'entends ça depuis 30 ans, c'est insupportable. Ouais. La seule chose qui compte, les statistiques, etc., la seule chose qui compte, c'est la façon dont les gens le vivent, la façon dont ils le ressentent, donc le sentiment, et qui est opératoire au plan politique. Il y a ce qu'ils attendent, il y a ce qu'ils voudraient que leur gouvernant fasse, et il y en a marre de les traiter comme des demeurés. Ah ben non, il n'y a pas d'insécurité parce que c'est un sentiment, nous on a les chiffres ce qui compte, c'est ce que les gens ressentent. Ça, c'est le premier point.
Est-ce que c'est ce que les gens ressentent ou est-ce que c'est la réalité? Dupond-Moretti vous dit il n'y a pas de réalité, c'est un sentiment que vous avez d'insécurité.
Dominique
a raison. Dominique a raison, c'est-à-dire que c'est une façon d'appréhender le réel, mais enfin vous êtes cinglés. Il y a ce que vivent les gens. 243 000 cambriolages par an, 230 000 l'année d'après. Vous avez vu, ça baisse, mais les 230 000 qui ont été cambriolés, allez leur expliquer. Bon courage. Donc, on nous traite comme des demeurés. C'est assez insupportable. Il y a ce que les gens vivent. Et puis, il y a un deuxième point, qui est ce qui s'est passé cet été. Il y a eu cette explosion de 26 points, Frédéric, elle tombe pas du ciel.
Mais bien sûr.
C'est parce qu'il y a un phénomène nouveau, l'insécurité dans les banlieues, etc., la racaille comme on dit, c'est une donnée, mais c'est surtout les couches populaires qui habitent ces quartiers qui la subissent. Mais l'événement majeur de cet été, pour des tas de raisons, le Covid, les loisirs des jeunes, etc., c'est l'explosion de l'insécurité dans les centres-villes qui ont été abandonnés à la racaille. Ce qui s'est passé sur les Champs-Élysées, c'était extraordinaire. On voyait les policiers rentrer dans un café, taper sur ceux qui regardaient tranquillement le match, et à l'extérieur, c'était l'émeute totale. Donc, si vous voulez, ce fait-là, il est incontestable. Les centres-villes, des grandes villes qui ont toutes voté les Verts aux municipales ont été abandonnées à la délinquance et à la pègre. C'est un vrai problème,
c'est absolument
pas nouveau, parce que ce discours-là, c'est ce qui a fait perdre Lionel Jospin en 2002, et lui-même à l'époque a dit, je ne sais pas si vous vous souvenez, d'ailleurs ça a provoqué un scandale, il a dit « j'ai été naïf de lier l'insécurité en permanence avec le souci économique ». Lui-même l'a dit après. Voilà. Et on en est, ça n'a pas bougé. Finalement, ce que nous dit Dupond-Moretti, c'est ça. C'est comme nous dire, c'est pas parce qu'on dit que le feu brûle qu'on va y avoir plus d'incendies. En plus, c'est absurde ce qu'il dit.
Mais politiquement, c'est aussi une démarcation.
C'est un débat de fond qui vient de loin, et il faut s'interroger sur la gauche. La gauche, je prends la gauche au sens large, avec toutes ces variantes. Eh bien, effectivement, il faut se rappeler ce qui s'était passé à l'époque Jospin, qui a conduit Jospin à l'échec. La majorité de la gauche, des gauches, je dirais, la majorité des gauches refusait de voir en face la réalité de l'insécurité telle qu'elle était vécue par beaucoup de Français, et c'était un degré moindre que ce qui se passe aujourd'hui. Et elle l'attribuait simplement à un sentiment d'insécurité, largement, selon elle, popularisé par la droite et surtout l'extrême droite.
Et par les médias.
Et par les médias dans la foulée, parce que les médias sont... Bon. Et aujourd'hui, le risque est grand que l'affaire recommence, parce qu'il y a quelques personnes qui ont à gauche, mais ils sont minoritaires, qui ont vu la réalité de l'insécurité. J'y ajoute le ministre, je l'ai vu ses déclarations hier, l'ancien ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve.
Oui.
Il a dit des propos très nets sur ce sujet-là qui ne relèvent pas du sentiment d'insécurité. Mais attendez, la gauche se piège et indépendamment de la position de chacun, la gauche nous piège. Ouais. Si jamais, étant donné les points culturels et médiatiques qu'elle tient, si jamais elle impose l'idée que tout ça c'est un sentiment d'insécurité, ça veut dire si c'est artificiel, c'est extrêmement grave sur les conséquences politiques qui vont suivre.
Dominique est juste, mais j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait de moins en moins un clivage gauche-droite. Il y a une partie de leaders de gauche qui sont dans une logique de négation, mais les sympathisants de gauche, les Français qui dans nos enquêtes disent « je me sens proche du PC, de la France Insoumise, du PS ou d'Europe Écologie », sont à quelques points près au même niveau que les sympathisants de droite, voire du RN, sur la lutte contre la délinquance doit être une priorité. Je pense que cet été, il s'est passé un feuilletonnage de faits divers, marqué par d'abord des faits divers protéiformes, les années 70, les enlèvements d'enfants, le fait que des agents de service public, des policiers, des pompiers aient été touchés, qui a, je dirais, aiguisé quelque chose qui était déjà présent dans le discours des Français.
Oui, mais c'est justement le fait qu'il n'y ait plus ce clivage chez les électeurs, c'est parce qu'il n'y a plus ce clivage.
Et qu'il y a une réalité.
Qu'il y a une réalité que la gauche n'a aucune chance de reprendre le pouvoir si elle tient ce discours-là.
Si elle continue à discours, c'est impossible. À tenir un discours hors sol.
Mais oui.
Il y a des leaders de gauche qui ne sont pas hors sol là-dessus.
Ils restent minoritaires.
Oui, il y en a pas beaucoup.
Qu'est-ce que disent les grands vainqueurs? Moi, je mets des guillemets, mais ils sont légitimes. Des élections municipales, les écologistes. Regardez, où que vous tourniez le regard dans toutes les villes de France qu'ils ont conquis, qu'ils ont gérées, leur discours est aux antipodes de ce que traduisent, cher Frédéric, tes sondages d'opinion. Peut-être qu'un jour, ils viendront à la réalité.
Grenoble en particulier.
Alors oui, est-ce que Régis, je voudrais un petit sourire. Je suis entièrement d'accord avec ce que dit Dominique. C'est rare, mais ça arrive. Donc, il y a un premier problème, c'est cette espèce d'angélisme et quelquefois cette irresponsabilité. Parce qu'après ce qui s'est passé à Grenoble, où effectivement, incontestablement, Darmanin a fait une opération en montrant ses muscles, etc. Vous avez derrière Piolle qui vient en disant « il ne faut pas provoquer les dealers ». Non mais attendez, on est où quoi? Pourquoi il ne faut pas braquer les braqueurs tant qu'on y est? Déjà, c'est la première observation. Deuxième observation, Palavas. Alors, je ne prends pas l'exemple de Palavas parce que ça se passe dans beaucoup, beaucoup d'endroits. On sent monter une forme d'autodéfense. En Pays Basque, moi j'ai des amis qui étaient, qui ont dit que les Basques s'énervaient et commençaient à dire « mais regardez les Corses, une fois on a attaqué la nuit de Noël, on a attaqué les pompiers, ça n'a plus jamais reproduit ». Je pense que ceux qui étaient tentés par ce genre de choses ne devraient pas le faire. Donc, on va probablement, et c'est une catastrophe, vers l'émergence de phénomènes d'autodéfense. Catastrophique.
Absolument. Alors, ça va nous permettre de passer à cette nouveauté qui prend effet aujourd'hui, c'est amende pour les fumeurs de cannabis. Vous vous souvenez peut-être que Gérald Darmanin, fin août, avait dit « ce sont les trafiquants de drogue qui vont arrêter de dormir, l'État ne lâchera rien face à ce fléau qui gangrène de nombreux quartiers et le quotidien de ceux qui y vivent ». Et donc, à partir du 1er, aujourd'hui, tout consommateur de stupéfiants sera sanctionné par une amende importante, que ce soit une barrette de shit ou un gramme de cocaïne, et ce sera vrai partout en France. Je ne sais plus combien l'amende, je crois que c'était 165 euros. Sauf que la réalité des choses...
La réalité, c'est que c'est quelque chose qui n'est applicable que dans le cas d'une consommation dans un lieu public, puisqu'on ne va pas faire des perquisitions chez les gens pour voir s'ils fument un joint. Non. C'est impossible déjà.
Ça me fait sourire, parce que ce matin, je lisais un article sur le crack à Paris, porte d'Aubervilliers, qui s'est déplacé dans le parc Martin Luther King. À Château-Rouge, il y a quand même une consommation de drogue comme le crack, qui est un produit particulièrement néfaste, qui induit des comportements violents, et on veut mettre des amendes pour le cannabis.
Je pense que les amendes valent aussi pour le crack. Enfin, je suis peut-être naïf, mais surtout, je suis dubitatif sur la possibilité
200 euros, l'amende,
pour les forces de l'ordre de pouvoir verbaliser. De sanctionner...
Régis de Castelnau...
C'est-à-dire qu'il y a un système depuis 1970 qui ne marche pas, puisque depuis la loi sur les stupéfiants, ça ne marche pas. On peut lutter contre un problème comme l'alcoolisme que à partir du moment où le produit est légal, puisqu'on ne peut pas faire de prévention sur un produit interdit. Et la seule chose qui marcherait, c'est la prévention. Je parle pour le cannabis. Et cette loi met dans le même panier les gens qui fument du crack avec des gens qui fument du cannabis, ce qui n'a rien à voir, alors, ce qui est complètement ridicule.
Enfin, alors, il y a une logique d'opinion là-dessus. C'est un sujet, le cannabis, dont l'opinion publique dans les enquêtes s'est pas complètement emparée. Ça fait 20 ans, 30 ans, j'ai souvenir de sondages avec nos amis de François quand Dominique dirigeait la rédaction. Êtes-vous favorable, opposé à une dépénalisation du cannabis ? C'est du 50-50 avec une petite majorité défavorable, avec deux types de clivages. Plus on est âgé, moins on est favorable à une dépénalisation et un clivage très fort gauche-droite. Et au sein des sympathisants de droite comme des personnes âgées, il y a l'idée de la dérive. C'est-à-dire, on a conscience que cannabis est moins grave que peut-être l'alcool est moins grave que le crack ou d'autres, mais c'est le sentiment que si on n'agit pas contre le cannabis, des consommateurs peuvent dériver du cannabis à la cocaïne puis au crack. Vrai ou faux, je ne sais pas.
Non, c'est faux dans les chiffres.
C'est plutôt faux, mais il y a cette croyance qui fait que le débat est particulièrement gelé et que des solutions à la hollandaise n'ont jamais été mises en place.
Il y a quand même un risque à annoncer les trafiquants de drogue vont arrêter de dormir.
Et on attaque les consommateurs.
Et on va punir les consommateurs. Et les trafiquants, eux, ne vont pas être plus inquiétés que ça. Ce serait intéressant d'aller faire un reportage, justement, sur les lieux de trafic. Pardon, Régis, je vous donne la parole.
C'est la politique de la rodomontade, quoi. Oui. J'ai l'impression qu'on a avec Darmanin un Sarkozy low cost, là, qui va continuer à parler, à annoncer, etc. Bon, le problème de la drogue dite entre guillemets douce, j'y crois pas une seconde, c'est pas ça la question, c'est que c'est devenu une économie dans les quartiers, hein, qui fait vivre du monde, qui organise la société. Alors il semble, moi j'ai lu ça, hein, il semble que le trafic de drogue en France a été pris en main par la pègre maghrébine, et donc d'autres communautés s'occupent d'autres types de délinquance, mais je sais pas si on peut y intervenir, alors légaliser, parce que c'est vrai que la prohibition produit du crime, ça on le sait très très bien, mais ce sont des questions extrêmement complexes. Vous savez que le trafic de drogue est incorporé dans le PIB, hein, de notre pays, ce qui est quand même extraordinaire. Moi, je pense que là, on a un effet d'annonce, on annonce les amendes, c'est un coup d'épée dans l'eau, parce que effectivement, on n'ira pas contrôler les gens chez eux, tout ça, c'est simplement pour essayer d'exister politiquement, de dire un peu quelque chose, mais pour l'instant, personne n'a les solutions concernant ce qui est devenu un problème de société majeur.
Oui, Dominique.
Alors que je partage l'avis, le dernier point de Régis de Castelnau, personne n'a aujourd'hui les solutions. Certes, effectivement, c'est important de le dire et de le répéter. Mais moi, je ne pense pas que c'est un effet d'annonce. Si, d'un certain point de vue, c'est un effet d'annonce. Je pense que c'est autre chose. Ça s'inscrit dans un contexte où il y a, venant de la base, venant de la France profonde, comme on disait autrefois, hein, l'expression est un peu passée de mode, il y a un appel général sur tous les terrains à la fermeté, à la répression, qui peut d'ailleurs, si ça continue sur ce ton-là, nous amener collectivement à des impasses graves, d'ailleurs, hein, si on continue dans ce registre-là. Mais je l'interprète d'abord, il y a l'effet d'annonce, soit, mais je l'interprète d'abord comme une tentative sémantique, pour l'instant, de réponse à cette demande. L'appel à la fermeté et à la répression venant de la majorité des Français devient spectaculaire, impressionnant, et à certains égards préoccupant.
Je pense que comme vous disiez, il n'y a pas de solution en matière médicale ou de santé. Mais enfin, moi, j'ai quand même une solution économique. Alors, vous allez me dire, je suis libéral, tout ça, mais aujourd'hui, on donne quand même de l'argent au Maroc, clairement, où la résine de cannabis est produite là-bas, on la fait venir. Je pense que si on légalisait, on pourrait produire le truc. Il y a un truc qui est quand même marrant, une anecdote drôle, c'est que juste à la fin du confinement, j'étais avenue Montaigne et je vois dans les magasins de luxe des gens qui n'avaient pas vraiment le look de clients, qui étaient en jogging, tout ça. En fait, c'était les dealers qui, pendant le confinement, ont eu leur chiffre d'affaires multiplié par 10, parce qu'ils travaillaient que par Internet, qui avaient été payés en espèces, qui dépensaient leur argent à Avenue Montaigne dans des boutiques de luxe. La réalité, elle est là, c'est qu'économiquement,
On me l'a raconté aussi. On me l'a raconté des gens qui travaillaient dans ces boutiques qui m'ont raconté la même chose. Allez, on se retrouve dans un tout petit instant. Christian Estrosi qui propose que la droite s'allie à Emmanuel Macron. 0826 300 300, à tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat.
À avec vous jusqu'à midi. Vous retrouverez ensuite André Bercoff. Alors hier, enfin c'est ce matin, à lire dans le Figaro, cet entretien de Christian Estrosi qui appelle son camp à s'allier au président de la République. Il dit, pour ne pas gâcher tous les talents de la droite, passons un accord avec Emmanuel Macron pour qu'il soit notre candidat à la présidentielle et que ceci puisse participer au redressement de notre pays. Alors, vous
qui êtes... moi, je pense qu'il y a...
spécialiste de l'opinion.
Bah, je pense qu'il y a deux niveaux. Sur le papier, ce que dit Christian Estrosi est une transgression sans nom. C'est-à-dire, il appelle à ce que la droite républicaine n'ait pas de candidat à la présidentielle. Il lui arrivait d'en avoir deux ou trois par le passé. Et donc, on pourrait dire, mais quel coup de pied dans la fourmilière. Au-delà de ça, quand je regarde nos enquêtes d'opinion, Valérie, notre baromètre IFOP fiducial pour Match et Sud Radio, je suis frappé de voir la bonne popularité d'Emmanuel Macron dans l'électorat de droite. Dans l'enquête qui va sortir ce soir, je tease un petit peu, mais Jean Castex obtient 3/4 de soutien chez les sympathisants LR. Et c'est vrai que dans nos enquêtes qualitatives, le peuple de droite, depuis 2017, a une sympathie pour Emmanuel Macron. Alors, parfois c'est 45, parfois 60. Et l'antienne qui est développée, c'est il fait les réformes, il a le courage que la droite au pouvoir n'a pas eu. D'un autre côté, c'est vrai qu'à droite, il y a aujourd'hui toute une série de candidats putatifs et des personnes de talent, des hommes ou des femmes d'État, Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, François Baroin. Donc voilà, il y a transgression certes, mais elle se base sur une réalité politique.
Enfin, le souci aussi, c'est quelles sont les propositions de la droite. Il y en a deux de possibles. Il y a eu une proposition... traditionnaliste, un peu catholique, comme on a vu aux dernières élections européennes, qui n'a pas fonctionné. Il y aurait une deuxième proposition, qui serait une proposition très libérale, économiquement. Il n'y a pas d'électeurs là-dessus.
Depuis Alain Madelin, c'est 3%.
Ben voilà, le problème, c'est qu'ils n'ont pas aujourd'hui...
le candidat.
Ben voilà, il n'y a pas d'espace. Donc il n'y a pas d'espace. Donc,
Pour ajouter une troisième... une proposition globalement sécuritaire.
Oui,
mais on va s'apercevoir... Non, mais pas seulement. On va s'apercevoir, à mon avis, je prends le risque de le dire, que Macron va les prendre à contre-pied sur ce sujet dans les quelques jours qui viennent. Bon, passons. En ce qui concerne, en ce qui concerne Christian Estrosi lui-même, il est libre, pas les libres Max, il est libre le Christian. Bon, et de toute façon, il officialise ce qui était déjà la réalité. N'oublions pas qu'en plus, il est un peu dopé, puisque au municipal, il a mis KO le grand Éric Ciotti, qui n'a même pas pu aller jusqu'à rester candidat au premier tour. C'est quand même pas rien. Donc, il y a une sorte d'aventure personnelle, enfin bon, sans nuance péjorative, bon voilà. Mais effectivement, je partage tout à fait votre avis. Qu'est-ce que la droite, un bon candidat de droite, d'abord, ça ne se trouve pas immédiatement, mais un bon candidat de droite, il peut y en avoir, ou même un Baroin, mais le risque est très très grand que d'une part qu'il arrive en troisième, sinon quatrième position, et qu'il perturbe la possibilité.
Donc vous dites que c'est pas si idiot que ça, ce que propose.
Non, c'est triste parce que c'est triste pour la droite qui a quand même co-gouverné pendant 50 ans.
On est quand même loin de la présidentielle encore.
Enfin, oui, et surtout on est d'autant plus loin de la présidentielle que contrairement à la précédente, la primaire. Ouais. De gauche et surtout de droite, avait, je dirais, fait commencer la campagne deux ans et demi avant. Là, on en est quand même très loin.
Très loin.
L'offre est quand même
Régis.
Très peu connue.
Qu'est-ce que propose la droite ?
Régis.
Frédéric dit que c'est très transgressif. Je ne le ressens pas comme ça. Il a des éléments concrets pour le soutenir, mais effectivement... Mais oui, tout à fait. Non, aux européennes, le pauvre Bellamy, il s'est fait larguer dans la dernière ligne droite. Rappelez-vous les sondages, Frédéric, qui le donnait à 13-14, il s'est retrouvé à 8, parce que justement la bourgeoisie est allée retrouver Macron. Cette transgression, il y a déjà quelqu'un qui l'a fait, et un jeune, Estrosi, ça fait longtemps qu'il le dit, ça fait longtemps. Mais il y a Guillaume Larrivé, surnommé naturellement Guillaume Larriviste maintenant, qui a fait une offre de service à Macron, qui était un des jeunes loups, avec Julien Aubert, avec d'autres encore, qui c'était la nouvelle génération. Lui, il a pris acte de cette situation et de ce déficit d'espace politique. Et puis il y a la question des ambitions. Alors il se trouve simplement que au municipal, le tsunami dans un verre d'eau décrit par Fondapol et Dominique Régnier, concernant l'arrivée au pouvoir dans les grandes villes des Verts alliés à la gauche, montre que malgré l'abstention, la droite a bien résisté. Hein, c'est-à-dire que
bon, elle a progressé même.
Elle a progressé, oui. Enfin, mais elle a résisté par rapport à la nouvelle situation qui était.
Elle a reculé dans les plus grandes villes, mais elle partait très haut.
Oui, oui.
Non, mais on est d'accord.
Absolument. 2014, c'était un tsunami bleu. Hein, donc, là, je pense que il y a une équation assez compliquée. Cela étant, bon, moi, je pense que nous aurons Marine Le Pen, qui est hégémonique de son côté, dans les couches populaires, et nous aurons Emmanuel Macron. Ils sont annoncés d'ailleurs dans les différents sondages au bord à bord, hein, au premier tour, et je pense que la droite aura un mal de chien à échapper à cette équation.
Sauf si Édouard Philippe...
N'écartons pas quand même, dans la dernière ligne droite, une surprise, quelque chose de, pour le coup qui serait complètement transgressif. C'est comme ça qu'en 2017, Emmanuel Macron, d'ailleurs, dans un contexte radicalement différent, l'a emporté. Et le terrain, on le voit partout dans le monde, mais restons en France, le terrain est mouvant. Hein, et les Français se feront une opinion qui pourrait en surprendre plus d'un dans les trois derniers mois.
Oui. À suivre.
Alors Zemmour, Ménard, Onfray, Natacha Polony, tout le monde, Charles Gave, tout le monde a raison de se préparer. D'accord.
Voilà. Non, mais tout le monde a droit d'avoir de l'ambition. Général de Villiers en tête.
Tout le monde a droit d'avoir de l'ambition.
Quand on regarde l'histoire de l'élection présidentielle, l'offre est souvent figée tardivement. Hein, voilà, il y a eu une époque liée aux primaires où il y avait une pré-compétition de l'élection présidentielle où il y avait une sorte de tour de chauffe. Là, il semble que la primaire a du plomb dans l'aile. Faussement, on fait croire que la défaite de François Fillon est liée uniquement à la primaire. Ce n'est bien sûr pas le cas. Et oui, je pense effectivement qu'il y a une inconnue. Et n'oublions pas que dans les années 2000-2012, Oui, je vous en prie.
Oui,
ça arrive. C'est pour ça que je me blague un peu.
On précise aux auditeurs, c'est de l'eau.
Et ce n'est pas du cannabis, donc tout va bien.
C'est de l'eau.
Alors, je me demandais pourquoi on avait fait un gros plan sur Frédéric pour ménager l'image de Valérie. Je félicite le réalisateur.
Qui a avalé de travers. Ça peut arriver. Désolé.
Non, mais je vous en prie. Donc, l'offre, il y a vraiment une inconnue sur l'offre, prêt à tous les fantasmes. Mais c'est vrai qu'une absence de la droite en 2022 serait quand même un véritable séisme.
Un séisme.
Et on peut avoir une absence de la droite et une absence du PS. Et
là, on est
dans un autre...
Puisqu'on parle d'une candidature écologiste PS...
Puisque le patron du PS admet qu'il pourrait se retrouver derrière un candidat autre qu'un socialiste.
Et on est vraiment sur les conséquences de ce que j'avais appelé le 42 avril, le double 21 avril. Absolument. Et on voit que LR, comme le PS, malgré leur succès des municipales, ne s'en sont pas remis.
Et pourquoi Christian Estrosi décide ce moment là?
Christian Estrosi, on se souvient qu'il a fait un bon accueil à Emmanuel Macron en 2017. Moi, je reviendrai encore plus loin. Ce qu'il a aussi marqué Estrosi, c'est les conditions de sa victoire en 2015, où il arrive à battre Manuel Maréchal Le Pen, qui fait 41% au premier tour grâce aux voix de la gauche. Et depuis là, je pense qu'il se sent comme libre vis-à-vis des formations partisanes.
Et puis, pardon, j'y reviens, mais au municipal, la façon dont il a mis Éric Ciotti KO.
On est bien d'accord.
Éric Ciotti est la vedette montante, semble-t-il, du.
Il a finalement un comportement diamétralement opposé à celui de Dupond-Moretti. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est proche des électeurs, de ce que veulent finalement les gens, et l'autre qui reste dans une posture idéologique.
Merci à tous les quatre. Dans un instant, c'est André Bercoff que vous retrouverez. Très bonne journée à l'écoute de Sud Radio. À demain.